bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la grande table d'été. Il y a un esprit des îles comme il y a un esprit des montagnes ou un esprit des forêts. Ce n'est pas très facile de dire en quoi cela consiste, mais cela se sent. Je crois que V.S. Naipaul possède et sait exprimer au plus haut point cet esprit des îles. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est d'abord et avant tout, me semble-t-il, un sentiment, le sentiment de l'étrangeté, ou de l'étranger. Être insulaire, être né dans une civilisation d'îles, cela veut dire qu'on est séparé, éloigné, écarté des autres, et c'est donc une impossibilité d'être tout à fait quelqu'un, d'appartenir tout à fait à une nation, à une culture. Ainsi s'exprimait Jean-Marie Gustave Le Clésio dans la préface d'Une maison pour Monsieur Biswas, roman de V.S. Naipaul dont on a appris la mort ce week-end. Nous évoquons en début d'émission la figure d'un écrivain insulaire qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2001. En première partie de la Grande Table, nous recevons des membres du Good Gen Theater et de l'École des Actes à Aubervilliers, deux projets théâtraux qui accueillent et travaillent avec des migrants, des réfugiés et des primo-arrivants. En seconde partie, portrait du circassien Bonaventure Gacon qui présentera son spectacle Campana au Festival d'Aurillac à la fin du mois d'août.
Je ne peux pas m'imaginer en train de faire un autre travail. Même dans les heures les plus sombres de ma vie où j'avais besoin d'argent, je ne pouvais pas imaginer devenir un diplomate, un docteur. Je ne pouvais pas le faire. Ce désir d'être écrivain qui m'est venu quand j'étais encore très jeune a été la chose la plus importante de ma vie. Et toute ma considération pour moi-même est liée à mon écriture et au livre que j'ai écrit. Je n'ai pas d'autre source d'amour propre.
C'est la voix de V.S. Naipaul dont on a appris la mort ce week-end, une archive de France Culture surpris par la nuit en 2003. Bonjour Marc Weitzman.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et romancier et vous avez lu l'œuvre de V.S. Naipaul. Ce qui est important chez cet écrivain, c'est avant tout son origine. Il était originaire de Trinidad et surtout de la communauté hindoue.
Oui, je pense que Le Clésio a raison dans la préface que vous avez citée à Une maison pour Monsieur Biswas sur la question de l'étrangeté. Naipaul avait plusieurs raisons de se sentir étranger à Tours, puisqu'il était effectivement originaire d'une famille indienne brahmane, c'est-à-dire de la caste supérieure. Et sa famille avait immigré à Trinidad après la fin de l'esclavage, quand les Anglais ont commencé à importer d'Inde des travailleurs indiens pour remplacer les esclaves. Donc, il était à la fois d'une caste supérieure, mais réduit à la notion issu d'une famille réduite à la condition de post-esclave, quoi. Ce qui créait toutes sortes de décalage et d'étrangeté. Et vraiment, il vient d'une île qui est vraiment une pastille de l'Empire, et d'une famille déclassée et déplacée. Et toute son œuvre est marquée par cette notion de déplacement constant. C'est certainement, il s'est formé comme ça. Il s'est formé dans cette étude de son propre déplacement, dans une maison dont Monsieur Biswas, il parle de son père, mais ensuite ça s'élargit à l'ensemble du monde et il a passé son temps, il a construit son œuvre sur des voyages en Inde d'où venait sa famille, dans les Caraïbes où il a grandi et puis en Afrique d'où venaient les esclaves qu'il côtoyait. Pardon. Et dans le monde musulman également. C'est vraiment un écrivain qui s'inscrit dans la continuation de Conrad, aussi bien dans ses romans que dans ses reportages. Et ce qui le rend, à mon avis, contemporain, c'est ça, c'est cette hybridation, cette conscience de l'hybridation et de l'étrangeté, et cette étude d'un monde où le déplacement est devenu finalement la catégorie principale, quoi.
C'est aussi un écrivain qui s'est particularisé par son regard, par le regard qu'il a pu poser sur la société post-coloniale, la société d'après l'Empire colonial. Et on a pu aussi dire que c'était un écrivain polémique.
Oui, c'est un écrivain polémique pour plusieurs raisons. Il était moins intéressé par la dénonciation des méfaits du colonialisme, bien qu'il le fasse. Hein. Contrairement à ce qu'on a dit, dans plusieurs de ses livres, il étudie les ravages du colonialisme, en particulier dans les mentalités. Mais ce qui l'intéressait surtout, c'était l'état de chaos des sociétés post-coloniales. Donc, il est sans pitié là-dessus. Mais donc il a été effectivement traité de réactionnaire, ce qui n'était pas. En tout cas, pas de manière aussi simple. Certains de ces livres aujourd'hui paraissent très précurseurs. Ces livres de non-fiction, ces reportages littéraires sur l'islam, Crépuscule sur l'islam, Jusqu'au bout de la foi, par exemple, sont des livres qui disent beaucoup de choses de désagréables sur l'évolution de l'islam politique à partir de la fin des années 70 et des années 80, et apparaissent aujourd'hui comme prémonitoires. Il a aussi travaillé sur la question du rapport de la fiction à la non-fiction dans des livres comme Un chemin dans le monde, qui est un chef-d'œuvre à mon avis, ou qui est un livre qui compte vraiment sur la mondialisation où les parties de fiction et de non-fiction s'interpénètrent complètement. Et c'est ça qui le rend, à mon avis, riche. Alors évidemment, il était polémique parce que d'abord il a dit un certain nombre de bêtises, et puis parce que comme tous les outcasts, comme tous les gens qui ont une grande conscience d'être, de venir de la marge, il y a un désir d'appartenance qui le rendait quelquefois insupportable, quelquefois odieux et quelquefois tiraillé dans des contradictions insolubles. Mais c'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est ces livres qui restent et qu'à mon avis, il faut lire si on veut essayer de comprendre quelque chose au monde dans lequel on est aujourd'hui. Ce sont des livres très profonds.
Et si vous aviez un livre à recommander pour finir, Marc Weitzman?
Je dirais Un chemin dans le monde, Une maison pour Monsieur Bissois, évidemment, parce que c'est celui par lequel il est devenu célèbre. Et c'est un livre déchirant sur une fiction, mais ça, inspiré de son père. Et puis Un chemin dans le monde, qui est vraiment quand même un très grand roman, un semi-roman et un semi-reportage. Et puis également le dernier, Le Masque de l'Afrique, qui est un livre de reportage sur l'Afrique, très très contemporain, très intéressant.
Merci beaucoup, Marc Weitzman.
Voilà, merci à vous.
Tout de suite, c'est la première partie de la Grande Table d'été et on part sous le chapiteau du Good Chance Theater.
And so we've been recording at Good Chance, the sound of One Day, the singing and dancing.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
Vous êtes directrice du projet Good Chance Theater qui est installé en ce moment place des Fêtes à Paris dans l'espace Jean Carré. Bonjour Altaïa Abdallah.
Bonjour.
Vous êtes originaire du Darfour et vous êtes résident actuellement au centre d'hébergement d'urgence Emmaüs Solidarité Jean Carré. Oui. Bonjour Émilie Hériteau.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène et vous participez à l'École des Actes au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. Et bonjour Mohamed Gaye.
Bonjour.
Vous participez à l'École des Actes au Théâtre d'Aubervilliers justement. Alors on va parler de ces initiatives de théâtre avec des personnes réfugiées. Le Good Chance Theater, Louise Bernard, quelle en est l'origine?
C'est un projet qui a démarré à Calais, à l'initiative de deux Anglais, deux dramaturges, Joe Robertson et Joe Murphy, qui intéressaient par... Évidemment, la crise migratoire qui faisait les gros titres des journaux, en particulier en 2015, crise des politiques migratoires d'ailleurs, sont allés à Calais sur place, voir comment aider, et ont découvert en fait une véritable ville informelle qui s'était créée là, et avec des espaces de rencontres, des espaces de discussion, et où ils ont décidé de créer cet espace-là, le Good Chance, sous une espèce de dôme géodésique, qui serait un espace d'expression. En fait, pour ajouter à l'action des organisations humanitaires sur place. Donc ça a commencé à Calais, et au moment du démantèlement de la jungle, comme beaucoup de gens sont venus à Paris en fait, le théâtre a suivi, en étant d'abord à Aubervilliers en 2017, ensuite en début d'année 2018 à Porte de la Chapelle, et en ce moment du coup dans le 19e, place des Fêtes à Jean Carré.
Vous, Al-Tayyab Abdallah, comment vous avez rencontré le Gutchen Theater?
Oui, bonjour. La première, je veux te dire un grand merci pour Gutchen. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il a changé de le Jean Carré. Il y a les gens, ils aiment bien pour le Gutchen. Moi aussi, je suis très très content avec Gutchen. Parce que il y a beaucoup de talent. Il y a des différents pour la danse, pour le chantier, pour le, tout ça. Comme moi, avant de le Soudan, je veux danser. Je danse rap. Mais je sais pas, je danse où. Il y a des gens, de la Jean Carré, il y a des chantiers, mais les chantiers où, je sais pas. À la première fois, il y a du Gutchen, il est arrivé de la Jean Carré. Il y a beaucoup de choses, il y a différentes.
Parce qu'il y a formes de pratiques différentes, ouais, de la danse,
exactement,
du chant.
Ouais. Comme moi, j'ai trouvé Gutchen, j'ai dansé rap, il y a des gens, il y a comme chanté, mais c'est très très cool pour moi, pour nous. Et je veux te dire un grand merci pour Louise et Raphaël et Connie et
toute l'équipe.
Ouais, toute l'équipe.
Louise Bernard, ça prend la forme donc d'atelier, principalement
ça.
Sous ce dôme, avec donc des réfugiés. Comment ils sont organisés, ces ateliers-là?
On a quelqu'un dans l'équipe qui est du coup le curateur, qui pendant 3 semaines, c'est généralement un artiste, metteur en scène, comédien, qui va inviter des artistes qu'il connaît, qui peuvent être français, parisiens, pas parisiens, et qui les invite à venir faire des ateliers. Il y a certaines personnes qui restent toute une semaine, certaines personnes qui viennent qu'une journée. Et l'idée, c'est de proposer, effectivement, comme disait Al-Tayyab, des choses différentes. Et donc, on fait nos ateliers de midi à 18h, du mardi au samedi. Et le vendredi soir, on se réunit et on voit ce qu'on a fait pendant la semaine et on essaie d'en faire un spectacle. Ce qui a lieu le samedi à 15h30, le Hope Show.
En public.
Exactement.
Vous, Émilie Hériteau, vous participez à l'École des Actes, qui est une initiative de Marie-Josée Malis au tête de la commune d'Aubervilliers. Est-ce que vous pourriez décrire un peu ce travail avec les primo-arrivants?
Alors, au départ, l'école, ce n'est pas que les primo-arrivants. Et l'initiative est celle d'un groupe qui, effectivement, s'est constitué à l'initiative de Marie-Josée Malis, au début de son mandat, à penser la question d'un théâtre de mission publique sur un territoire comme celui d'Aubervilliers, et de savoir comment le théâtre pouvait, en sachant qu'il le devait, renouer avec la vie des gens, avec la pensée des gens de la ville, et qu'il y avait une coupure comme ça assez violente. Et du coup, ces groupes de réflexion ont d'abord parlé des absents au théâtre, puis très vite on a renversé la question en disant que c'était le théâtre qui était absent aux gens, qui ouvrait pas les bonnes questions, et que pour ça il fallait un temps long de la rencontre, d'une pensée comme ça collective qui s'élaborait patiemment, qu'il fallait que nous-mêmes on se mette en frais de déclaration sur la situation pour qu'on invite les gens à se déclarer eux-mêmes. Et il y a eu janvier et novembre 2015, qui pour nous ont été comme ça des courts-circuits, où on s'est dit qu'il était temps qu'il y ait un lieu constituant de cette pensée.
Ça a accéléré le processus.
Parce que du coup, c'était comme ça pour nous le symptôme d'une séparation très violente entre la jeunesse qui spontanément côtoyait le théâtre à l'arrivée de Marie-Josée Malis, jeunesse étudiante, jeunesse de jeunes artistes, la jeunesse qui avait grandi à Aubervilliers, qui pouvait se reconnaître et ne pas se soumettre au slogan « Je suis Charlie ». Et du coup, la violence qui pouvait exister dans les établissements aussi, parfois, la presse qui a pu venir vérifier à quel point. Et la jeunesse qui arrive, avec le fait qu'Aubervilliers est quand même une des villes encore les plus pauvres de France, avec la population immigrée, première génération, parmi les plus fortes même du département de Seine-Saint-Denis. Donc trois jeunesses séparées qui ne se rencontrent pas. La jeunesse étudiante, la jeunesse qui arrive et la jeunesse qui a grandi à Aubervilliers. Et pour nous, c'était le désir comme ça que cette école puisse être le lieu de cette rencontre. Donc effectivement... il y a beaucoup de réfugiés, de demandeurs d'asile, de jeunes migrants sans papier qui côtoient l'école. Et puis il y a des jeunes mineurs isolés qui sont scolarisés, des jeunes qui ont grandi à Aubervilliers, qui viennent parfois plus sur les ateliers de théâtre, mais du coup qui se côtoient, qui se rencontrent. Voilà, donc c'est né comme ça. Et on l'a fondée en 2016, cette école, décembre 2016.
Et ça prend la forme donc d'ateliers de théâtre?
Alors ça prend la forme, non, pardon. C'était la première question, d'assemblée. Hebdomadaire, il y a 3 assemblées par semaine, qui sont d'abord des lieux de pensée, où du coup on vient ensemble, alors soit à partir d'une question personnelle, d'un problème autour du logement, autour des papiers, autour de la scolarité, d'une angoisse sur la question de la paix. Est-ce qu'on est vraiment dans un pays en paix ou est-ce qu'il s'agit d'une fausse paix ? Et de questions donc qu'on travaille, et même si la question arrive d'un point de vue individuel, de la verser en question collective, d'en faire une question collective, afin d'arriver à énoncer des déclarations sur ce qui devrait être. Là où on est dans un pays où beaucoup de lois sont vidées de contenu, où les lois travaillent parfois contre les droits de beaucoup de gens dans ce pays, et du coup de réénoncer quels devraient être les droits de la vie des gens, de ce qu'on a appelé les lois d'Aubervilliers. Donc c'est ce travail qui se mène dans les assemblées. Non, justement. Mais précisément à essayer de trouver un lieu comme ça qui pouvait permettre de, à terme, de trouver une nouvelle vitalité pour le théâtre, on a accepté de faire un pas de côté. Et de se défaire de l'immédiateté des préoccupations de la création habituelle. Et du coup d'avoir un lieu qui est comme autonome en grande partie du théâtre dans son activité hebdomadaire et quotidienne. Donc c'est d'abord un lieu comme ça de pensée. Il y a un atelier de droit, il y avait une ingénieure en génie civil sans papier qui a donné des ateliers de mathématiques pour les adaptés au bâtiment, des ateliers de plomberie. Il y aura bientôt un atelier d'architecture. Donc ce sont d'abord un lieu de pensée. Et puis bien sûr, il y avait un atelier de théâtre dès le début. Et l'idée, c'est que si réellement de ces rencontres improbables entre de jeunes étudiants, de jeunes artistes et les jeunes qui arrivent ou les jeunes qui ont grandi ici, de ces rencontres qui existent trop peu, des idées nouvelles surgissent, alors le théâtre sera requis pour inventer des formes nouvelles. Et là, on commence à le vérifier à travers les productions du coup qui ont pu naître. La pièce qu'a mis en scène Marie-Jo Zemalis, l'année dernière, « Vêtir ceux qui sont nus » de Pirandello, qu'elle a mis en scène avec les comédiens de sa troupe, mais également un chœur de participants de l'École des Actes, qui fait quelque chose du théâtre redescend, très, très à ras du présent, défait quelque chose d'une théâtralité comme ça habituelle, et permet de trouver une forme nouvelle. C'est aussi quelque chose que l'on cherche sur le Tchekhov.
Vous travaillez sur Tchekhov actuellement, sur La Grand Route.
D'après Tchekhov, qui s'appelle Sur la Grand Route, qui est une pièce courte en un acte, et qu'on a travaillé avec les participants de l'École des Actes. Donc, suite à l'atelier hebdomadaire qui a eu lieu tout un an, et où beaucoup de gens ont pris goût au théâtre, on a décidé de cristalliser comme ça l'énergie et le désir qui montait à travers une création.
Vous, Mohamed Gaye, vous travaillez sur ce projet-là, sur la route de Tchekhov. Okay. Comment vous êtes arrivé à l'École des Actes, à Aubervilliers?
Moi, c'est ma psychologue, Alexia Perle, qui avait vu que voilà, j'étais un peu violent et agressif. Et je ne parlais pas, j'étais trop timide. Du coup, elle m'a mis en relation avec Émilie et pour que je fasse du théâtre. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre?
Alors, je peux dire tout. Je peux dire tout parce que de là-bas, à l'École des Actes, il n'y a pas de professeur ou d'élève en fait. On est tous pareils, on est tous égaux. On s'entraide. J'apprends sur Émilie, elle apprend quelque chose sur moi, ainsi de suite. Il n'y a pas de... Voilà, c'est lui, il est le plus intelligent, l'autre, il est le moins. On est tous égaux là-bas, on s'entraide. Et voilà, moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en moi et d'enterrer une partie de ma timidité de côté. Aussi, côté social aussi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de voir les choses autrement qu'avant.
Une des questions importantes dans ces initiatives théâtrales menées avec des primo-arrivants, c'est la question de la langue. Comment le Good Chance Theater envisage cette chose-là, la question de travailler avec des langues différentes?
C'est effectivement quelque chose qui est arrivé très très vite quand on parle de donner des ateliers, puisque on a toujours quelqu'un qui mène les ateliers pour avoir une programmation artistique. Et on a beaucoup fait de travail qui ne nécessitait pas nécessairement de traduction. Donc beaucoup de théâtre physique, beaucoup de choses où on montre l'exemple et ensuite on construit à partir des gestes aussi. On a aussi beaucoup travaillé sur même la mise en scène d'un discours, par exemple, dans une langue qu'on comprendrait pas. Donc quelqu'un qui fait un discours en arabe, mais qu'on arrive quand même à transmettre l'émotion, c'est quelque chose qu'on trouve vachement intéressant. Mais depuis qu'on est à Jean Carré, vu qu'il y a pas mal de gens qui sont vraiment dans une logique d'intégration, qui apprennent le français, c'est important pour nous de mettre un peu de français dans chacun des ateliers, ne serait-ce que pour faire passer la langue. Mais c'est vrai qu'on travaille en toujours 4 langues différentes, arabe, pachtou, français, anglais en général.
Et vous, à l'école des actes, Émilie Herito, ce travail de la langue?
Alors, c'est aussi une question qui arrivait très vite, puisque l'appel à participation à l'école, à partir d'une charte qu'on avait rédigée, on l'a traduit dans beaucoup de langues, pas toutes, parce qu'il y en a énormément à Aubervilliers, mais dans beaucoup de langues présentes sur la ville et qu'on affichait un peu partout. Et puis, du coup, dans les assemblées, on ne peut pas faire de traduction systématique, mais il y a un principe d'hospitalité comme ça de la langue qui fait que chaque fois les enjeux de la discussion sont énoncés dans les langues des participants en présence qui ne parlent pas encore ou trop peu français. Et ensuite, c'est aux participants de se déclarer quand ils ont besoin de traduction. Donc il y a un principe comme ça qui fait qu'on essaye d'avancer en français. Beaucoup sont francophones, beaucoup de participants sont d'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, il y a de plus en plus de... Il y a un petit groupe bengali maintenant assez constitué. Et donc pour les traductions en anglais, c'est une double traduction. D'abord en anglais, puis en bengali. On a eu des surprises avec des soninkés qui étaient capables de traduire en turc pour les Afghans. Donc on a des rencontres magnifiques comme ça au niveau des langues. Donc nous on traduit régulièrement, et puis effectivement sur la question de comment passer une émotion ou une pensée, une idée dans une autre langue, pour nous le théâtre est le lieu où on vient vérifier que ce qu'on pense on peut le dire, et que ce qu'on dit on peut le penser, ce qui paraît une équation évidente et qui ne l'est finalement pas tant que ça. Et donc on vient éprouver ça en fait, la mise en œuvre de nos subjectivités à travers cette question de la langue aussi, et donc sur les ateliers de théâtre par exemple. Très tôt, on jouait sur des poèmes ou sur des énoncés, des déclarations, des petites phrases qui avaient pu être déclarées et qui étaient retenues comme ça, comme fortes, des idées portées en assemblée, qu'on traduisait et qu'on portait du coup au plateau dans une autre langue que la nôtre.
Est-ce que vous diriez que vous avez rencontré quelque chose d'universel dans la forme théâtrale, ou en tout cas la forme scénique, ou on va prendre dans des exceptions très très larges, une forme d'universel dans ces ateliers-là, quelque chose qui pouvait s'adresser à tout le monde?
Oui, enfin sur le fait que ça puisse s'adresser à tout le monde, oui, c'est quelque chose qu'on vérifie constamment. Après, il y a une question de patience qui tient plus au caractère, puisqu'il y a effectivement un temps long comme ça qui se déploie, d'écoute. Mais moi, je suis surprise de l'infinie patience, notamment le groupe de Bengali qui assiste à des répétitions, notamment de Vêtir ceux qui sont nus, qui était quand même une pièce qui durait 4h30. Et qui à ce moment-là n'était pas francophone du tout et pouvait être complètement absorbé et avait une écoute magnifique. Donc il y a des rapports au théâtre comme ça, autant dans la pratique au plateau que dans l'écoute et la tenue de spectateurs qui vérifient que oui, il y a une forme d'adresse universelle et que le fait de, puisque c'est quelque chose qui peut apparaître parfois dans le fait qu'on ne transige pas sur l'exigence qu'on peut avoir sur les formes. Et que parfois on peut taxer ce théâtre d'élitiste. Là où au contraire, moi j'ai vérifié que ça n'est élitiste que pour ceux qui présument de ce qui peut se percevoir, se comprendre, et qui ont une forme de surplomb vis-à-vis des personnes avant de les rencontrer et de l'éprouver ensemble.
Est-ce que vous diriez que dans les deux projets, le théâtre est un moyen d'intégration sociale, enfin un moyen d'intégrer la société ?
De mon point de vue, oui, évidemment. parce que contrairement, je pense, au travail de l'école des actes, nous, on travaille sur l'immédiateté. On travaille avec des gens qui peuvent ne passer que 5 minutes dans le dôme. Et c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit un endroit qui soit immédiatement universel, immédiatement accueillant et immédiatement actif pour les personnes qui passent la porte, en fait. Et une fois, on a entendu quelqu'un dire... un participant dira à un autre, mais vas-y, entre, ici tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et on pense sincèrement qu'avoir cet accès à l'initiative, en fait, ça permet de se donner de la force pour les autres parties, on va dire, de la vie sociale. C'est évidemment un espace de rencontre qui est éminemment social, c'est un espace de dialogue qui est éminemment social, mais même en termes simplement d'estime de soi et de posture dans la société, c'est un travail dont nous on voit les effets au fur et à mesure des semaines.
Et comment s'articule votre travail avec le travail des associations sur place? Je pense notamment à Emmaüs.
Nous, on est accueillis par Emmaüs Solidarité, avec, par qui on avait déjà été accueillis à la porte de la chapelle. Et on est vraiment là en complément de leurs activités. On n'est pas là pour... on sait très bien et on reconnaît et on remercie toutes les personnes qui travaillent aux besoins primaires de trouver un logement, avancer dans les démarches administratives. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on n'a aucune légitimité. Mais on pense que pouvoir apporter, créer ensemble un espace d'expression, ça vient en complément de cette action-là.
J'avais été frappé un jour en voyant une goudronneuse mettre du goudron sur un chemin de campagne. Et je la regardais et je me suis mis à penser aux fourmis. Enfin, pas que les fourmis, tous les insectes, toute la petite vie qu'il y avait sur cette route de campagne. Je me suis dit, ils ne savent pas ce qu'il va leur tomber dessus, du goudron, quoi. Et puis en plus, après le goudron, il y a le rouleau compresseur qui va venir. Eh bien, en voyant ça, je me suis dit, c'est ça notre relation, nous, les petites personnes, les petites gens, les petites vies anonymes, dont on se souviendra d'aucun prénom, d'aucun nom. Eh bien, là, le théâtre peut rassembler, peut réunir, peut rendre compte de ce sentiment que nous pouvons, d'une certaine manière, partager. Or, il y a de moins en moins de choses que nous parvenons à partager ensemble. De plus en plus, nous, pour échapper à la dictature, à la peur de la dictature, nous partageons surtout une forme d'esthétisme. Ben, pour ma part, j'ai envie de résister contre ça. J'ai envie de dire non, il existe encore des endroits où on peut se rassembler autour d'une histoire, d'un propos, d'un récit où à un moment donné, non seulement nous comprenons tous la même chose au même moment, mais où nous ressentons aussi à peu près la même compassion, la même empathie, sans que ça soit manipulé, parce que comment faire pour qu'au théâtre, grâce à l'histoire et à la langue et au jeu des acteurs, il puisse y avoir un moment d'humanité ensemble autour d'un événement fictif qu'on appelle une histoire.
C'est la voix du metteur en scène Wajdi Mouawad en 2018 qui parle du théâtre comme espace de partage. Est-ce que dans vos deux projets, que ce soit l'École des Actes ou le Gutschen Theater, il n'y a pas quelque chose aussi d'un rôle assez fondamental du théâtre qui est de créer un espace de partage et donc de créer un espace de communauté? Est-ce que c'est comme ça que vous l'envisagez, Émilie Hériteau?
Un espace de communauté, je sais pas. Un espace de partage, évidemment. Après, c'est plutôt les formulations là, d'être des fourmis qui ignorent le goudron qui va tomber sur la tête. Là, en l'occurrence, les gens, tous les participants de l'école savent très bien à quel point ils sont englués dans le goudron, déjà, ou à quel point la situation ne fait que se durcir et va continuer à se durcir. Donc, il y a une espèce de très grande lucidité là-dedans. Donc la question, c'est plutôt comment on arrive à trouver de la force de l'intérieur d'une situation qu'on sait en impasse. Et du coup, sans s'en remettre à la question de l'aide, mais d'arriver à trouver les propres forces. Donc là, c'est un travail, effectivement, qui demande à cet endroit-là un partage très fort des questions, des pensées de chacun. Et puis, oui, du plaisir qu'on peut trouver, de la force qu'on peut trouver au plateau, après, dans l'expérience vraiment de jeu. Ça, c'est ce dont tu...
Mohamed Gay. C'est dans l'expérience de jeu aussi que vous trouvez un espace de partage.
Exact. Moi, au début, quand je suis arrivé à l'École des Actes, comme je vous ai dit, je ne parlais pas beaucoup. Et une fois intégré dans le groupe, ils m'ont intégré dans le groupe. Ce sentiment de partage, je ne l'avais pas. Ces personnes-là... Alors qu'ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes, ils ont des problèmes extrêmement, extrêmement graves. Sur le plateau, tu vois même pas que ces gens-là, ils ont des problèmes ou celui-là, il est malade. Ils sont gays, ils sont heureux, on chante, on danse pendant les répétitions avant. On se voit en dehors de l'école, il y a des gens, on part même ce soir, on va partir ensemble en voyage. C'est un sentiment de partage pour moi, oui.
Louise Bernard, sur cette notion du théâtre comme partage pour le Gutschen Theater.
Pour moi, c'est évident. Et sur la notion d'espace de communauté aussi, finalement. Et ça, je pense que c'est assez représentatif quand on connaît l'histoire de Calais, qui est qu'au moment où les deux fondateurs sont arrivés, il y avait en fait certains espaces qui existaient, des espaces de communauté de partage, qui étaient des espaces religieux et des espaces communautaires par nationalité. Et vraiment, l'idée avec le dôme de Gutschens, c'est de créer un endroit où chacun peut se sentir parties prenantes. On fabrique en fait la structure avec les gens du centre, avec des gens qui nous suivent depuis longtemps. Donc ça devient immédiatement quelque chose qui appartient à la communauté. Et la communauté, elle est simplement définie par les gens qui viennent donner de leur temps, qui viennent donner de leur talent et qui sont du coup tous au même niveau. Chacun peut proposer un atelier, chacun peut proposer de commencer un élément de décoration. Et ça, ça crée communauté. Et on le voit aussi parce qu'il y a des personnes qui étaient à Porte de la Chapelle, qui sont venues quand on était à Jean Carré, qui continuent à nous suivre. Et on finit par avoir un vrai sentiment de troupe qui est assez formidable.
Merci à tous les quatre. Louise Bernard et Altaïeb Abdallah, le projet Gutchen Theater, il est installé en ce moment Place des Fêtes à Paris dans l'espace Jean Carré jusqu'au samedi 18. Et le 19 août, il y aura quelque chose sur un bateau, vous m'avez dit, Louise Bernard.
Exactement. On fait un show spécial pour la dernière semaine.
Pour la fin de la résidence.
Qui s'appelle Le Boat Show. On sera sur le bateau Le Barboteur au bord du canal de l'Ourcq. Et du coup, on aura plein de choses à présenter ce jour-là et on veut fêter ça dignement.
Ouais. Merci.
Merci Émilie Hériteau et Mohamed Gueye. Sur la route, d'Anton Tchekhov sera joué à la commune d'Aubervilliers du 20 au 25 novembre. Vous écoutez France Culture, il est 13h18, on vient d'écouter le titre Denalo du groupe Lumi. Ils seront en concert à Biarritz avec le groupe Catastrophe le 22 septembre prochain.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
Quand le cercle est là, les êtres avec l'œil et le cœur sont là, coude à coude, regardent le geste, écoutent le silence, le claquement du bruit, le verbe, la musique. Alors on tente. Nous tous, en rond, avec l'acrobate, le clown, le salto, l'apesanteur, le danger, de tordre la réalité, de la repousser, de la braver pour qu'apparaisse, juste un instant, l'étincelle dans l'œil qui soudain devine l'incommensurable, le cirque. Bonjour Bonaventure Gacon.
Bonjour.
Vous êtes circassien, et je viens de lire les mots qui accompagnent votre nouvelle création avec le cirque Trottola, le spectacle Campana qui sera présenté au Festival d'Aurillac les 21, 22, 24 et 25 août. Il y a cette question du cercle qui apparaît dans le titre. Est-ce que vous diriez qu'au cirque, tout part du cercle ?
J'en ai l'impression, quoi. J'ai l'impression que la force du cirque, c'est comme si il fallait qu'il y ait je sais pas, 300 personnes, en l'occurrence, c'est ça, dans ce cirque, qui se mettent en rond, comme pour essayer de comprendre une réalité, quoi. Comme si ça suffisait pas d'être tout seul ou d'être face à face. Comme s'il fallait qu'il y ait 600 yeux pour essayer de comprendre une espèce de globalité. Oui, j'ai l'impression que le cercle, en plus, il raconte un passage, il raconte un temps qui se déroule. Et puis, il met tout le monde ensemble. Et c'est surtout ça qui est important. Et que je crois qu'au cirque, le décor, ça devient le spectateur qu'on a en face. Et que on est en effet coude à coude. On est là à se regarder les yeux dans les yeux et à causer du risque, à rigoler et à causer du temps qui passe, de l'éphémère, du risque, quoi.
Vous avez des souvenirs, vous, de spectateurs de cirque, et notamment quand vous étiez plus jeune, justement dans cet espace circulaire?
Oui, oui, je suis allé au cirque pas mal de fois. Notamment, j'ai vu le cirque à Ligre. Je m'en souviens vaguement parce que on a retravaillé après avec eux plus tard, là, avec Branlo et Niglou, qui ont le petit théâtre baraque, qui travaillait dans un tonneau, justement. Et j'ai ce sentiment-là, c'est une sensation surtout d'être ensemble en cercle comme ça. Déjà, le lieu, il a un côté magique, il est inspirant pour ça, et de se retrouver dans cette harmonie, parce que dans cette espèce de communion, d'être tous ensemble là, pratiquement comme autour de cette table de radio là, j'imagine que il y a une force du cercle, alors magique ou je ne sais quoi, mais ça délivre quelque chose. Et le fait de se mettre en rond pour un temps ensemble, ça fonctionne, quoi. Il y a une espèce d'électricité qui apparaît,
qui est différente de celle qu'on peut avoir au théâtre, par exemple, où on reste dans la frontalité.
Oui, alors moi je fais aussi du théâtre, j'aime beaucoup ça, parce que c'est plutôt comme un livre ouvert, le théâtre. On est là, on vient assister à une histoire, on vient se faire raconter quelque chose, donc c'est plus intelligent peut-être. Alors que le cirque, il est plus bestial, il est plus animal, quoi. Il a aussi de la passion, bien sûr, il a aussi ses histoires, etc., mais qui sont plus oniriques ou de l'enfance... ou sombre ou dangereuse, voilà.
Vous vous déplacez souvent dans vos spectacles avec un chapiteau?
Tout le temps. Tout le enfin, temps. Avec le cirque Trottola, en tout cas, oui, tout le temps avec un chapiteau. Ouais.
Et c'est un décor que du coup vous transportez de ville en ville. Et c'est quelque chose dont vous ne pourriez pas vous passer?
En tout cas, pour ce cirque-là, pour ce que ça raconte, je pense que le fait même d'être en chapiteau, ça raconte aussi quelque chose. On arrive sur des places... qui avait une gueule de place avant qu'on s'installe. Et là, on chamboule aussi la vie des gens. Ils sont obligés de contourner ce chapiteau. On a les caravanes. Les caravanes, c'est toujours embêtant pour les communes. Ah, il y a un côté un peu mystérieux, etc. Bon, rien que ça raconte. Ensuite, le fait que nous, on soit sur la route, qu'on participe au montage, qu'on conduise les camions, etc., ça fait que ça nous forge une vie qui fait qu'on va être là pour ce cirque-là. Donc ça finit par infuser, en fait, dans notre travail, dans nos vies. Et je pense que c'est aussi ça, la force du cirque.
Vous diriez que c'est de plus en plus difficile, ou en tout cas que ça a évolué, le fait d'implanter un chapiteau dans une ville?
Ah oui, c'est difficile. Et j'ai ce sentiment que... on a ce sentiment, Titoun et moi, avec qui ma partenaire, avec qui on a monté le cirque, et puis aussi les gens avec qui, toute la troupe, que voilà, on a le sentiment que... avant, il y avait des espèces de grandes esplanades dans les villes qui étaient plus ou moins terrain vague et qui faisaient un peu office de page blanche, qui étaient là comme pour accueillir et des foires, et des animaux, et des camions, et des gamins qui jouent au foot, etc. Et c'était une espèce de... il y avait du rien dans la ville. Et après, bon, il y a eu des commandes, des architectes ont commencé à mettre du marbre. Trois petites marches qui ont l'air de rien, mais n'empêche, on peut plus venir avec des camions, une foire aux bestiaux ou un cirque avec des animaux encore moins, etc. Il y a une fontaine qui est très figée. Donc, comme si l'intelligence humaine s'était accaparée d'endroits un peu bizarres ou tout simples, qui fait que oui, ça devient difficile d'avoir ce genre d'endroit. C'est comme le cirque dans milieu de l'art aussi, il a difficilement à trouver sa place parce que il est pas tel, il est pas tant intelligent que ça. Donc c'est un peu le cancre, celui qu'on a mis au fond de la salle. Alors du coup, lui aussi, il a du mal à et puis c'est pas du genre à s'imposer. Alors du coup, il y a cette espèce de oui, c'est assez difficile et techniquement d'installer un chapiteau dans une ville, etc. Et aussi dans ce que ça raconte, parce que malgré tout, malgré les camions, la grosse tente, etc., un cirque, c'est fragile. Et je pense que c'est ce qui fait aussi sa qualité.
D'installation éphémère aussi.
Oui, d'installation éphémère, et puis que c'est bizarre, et puis qu'il y a des caravanes, et puis qu'on a la toile, elle est facile, on peut facilement la soulever, et puis que ça peut accrocher le vent, qu'il peut faire froid, etc. Il y a beaucoup de...
La première fois qu'on a travaillé le clown avec François, quand on a découvert ce travail-là au théâtre, c'était la question qu'il nous a posée au départ. On n'a pas parlé de clown. Il nous a dit, essayez de créer un personnage duquel vous allez tomber amoureux. Donc, bon, c'était l'amour, le thème. Enfin, du moins, quand on allait se voir dans la glace, quand on allait inventer quelqu'un comme ça sur nous, enfin, on était à la fois le sujet et l'objet. Il fallait que dans la glace, dans le miroir, on sente que ce personnage allait nous faire craquer. C'est-à-dire nous désarmer. Sentir que, parce que quand on rentre sur un plateau, c'est ça qui compte, c'est le désarmement, au sens, on vient aussi dans une salle faire que le spectateur se sent, il va se laisser faire. Et pour se laisser faire, il faut déjà que soi-même, nous avant, on ait fait un travail qui fait que quand on rentre sur le plateau, on a aussi un abandon en nous qui a dit, ok, je vais y aller, je vais rentrer dans un endroit où je veux être totalement avec vous, là, ce soir. Et pour être à cet endroit-là, il faut à la fois donc un espèce d'abandon, une jubilation, une dilatation, et le maquillage aide énormément à ça. Avoir trouvé ce visage, c'est avoir inventé un personnage qui est autre. Quand je me vois dans le miroir, je me vois vraiment autre, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai créé comme ça un être qui serait pour moi l'instrument qui me permet de communiquer avec vous, la manière de sonner d'une intériorité à une autre. Mais vraiment, encore une fois, c'est pour aller toucher l'intérieur de vous-même, public, dans la salle.
C'est la voix de Catherine Germain qu'on entend en 2012, une archive sur France Culture. Vous, Bonaventure Gacon, vous avez été formé par elle et par François, dont elle parle, qui est François Cervantes, au Centre National des Arts du Cirque. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis?
Quel plaisir de l'entendre, j'adore. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que ce qu'elle vient de dire, on a souvent ce sentiment que on va être rassuré si on a bien réfléchi ou si on a pensé un personnage ou si on est consciencieux. Or, c'est souvent le corps qui va nous sauver de ça. Et le clown, il a cette force-là, c'est-à-dire que il nous surprend aussi nous. Il nous surprend aussi. On tente de surprendre le spectateur, mais il amène aussi une surprise. Et ça, c'est jubilatoire, quoi, parce que il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu, voilà. Et je trouve que c'est vraiment superbe ce qu'elle dit, parce que on est dans ce rapport de faire émerger quelque chose, on va dire une poésie, on va peut-être appeler ça comme ça, ou des rires, parce que et sans savoir forcément sans que ce soit forcément contrôlé par l'intellect, comme des gamins ou comme voilà. Et j'adore le clown pour ça. Je dis souvent, par exemple, si vous êtes allé voir un clown que vous avez adoré, on s'aperçoit que c'est très difficile d'en parler après. On dit, ah, voilà, il avait des grosses godasses, il pleut, ah là, j'en pouvais plus. Puis vous avez l'interlocuteur en face qui vous regarde, bon, c'était un clown, quoi. Donc on voit bien que c'est difficile de transmettre ça, cette espèce d'état, ce rire, cette espèce de magie qui a apparu à ce moment-là. Et le cirque et le clown, pour moi, il raconte un peu quelque chose comme ça, peut-être même des fois un peu désuet, un peu passé, etc. Mais du coup, on met pas l'importance sur ce moment-là. Voilà. On met sur la forme. On met pas forcément l'importance sur cette espèce de sensation. Voilà.
Elle parle du désarmement aussi. La question de pour trouver quelque part la forme du clown, il faut arriver à se désarmer. Est-ce que vous, ça a été une étape par laquelle vous êtes passé de trouver ce moment-là où vous n'avez plus
bien
les
sûr,
armes.
Et puis je pense que c'est une étape, c'est, on doit faire ce travail-là à chaque fois qu'on reprend le travail, à chaque fois qu'on rentre sur la piste ou sur une scène de théâtre. C'est un travail pratiquement au quotidien de travailler ça. C'est-à-dire, c'est de lâcher, de pas essayer de contrôler, ce qui va se passer, c'est d'être ouvert à ce qui va arriver. Je veux dire, c'est comme si on avait une histoire d'amour. Je reprends un peu les termes de Catherine. C'est comme si on avait une histoire d'amour, puis on se dit, il va se passer ça, on va aller faire un pique-nique, ensuite on va aller au cinéma, etc. Alors que, ce qui se passe, peut-être qu'il se passe pas grand-chose, ou que on a juste jeté un peu des petits pains aux pigeons, je sais pas, mais c'est ça qui est précieux. C'est pas les plans qu'on s'est fait sur la comète ou je sais pas quoi. L'important, il est pratiquement invisible.
Il n'y aurait pas du coup de formation théorique pour devenir clown?
Ça, c'est une bonne question, mais parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans le clown qui sont plus, du timing, des choses, des gags, comment se péter la gueule, etc. Mais on sent bien que c'est comme si on a tous eu ça, je pense, quand on raconte une histoire drôle, par exemple. Après, alors les gens se marrent bien ou pas, mais bref, ou on a entendu une histoire très drôle. Si on veut la re-raconter, on sent bien qu'il n'y a pas forcément une technique ou une intonation à avoir. Sinon, tout de suite, on devient un peu malin. Et alors, à ce moment-là, les gens, ils se sentent piégés, ils ne sont pas dans la... Alors, il faut essayer de trouver l'essence de ce qui nous a fait rire. Puis à ce moment-là, il faut essayer de se désarmer, de redevenir gamin, redevenir un peu ouvert, puis se dire, l'essence même du rire, elle est née de quoi, en fait? Elle est née de quelle sensation? D'où elle est partie? Mais aussitôt qu'on veut mettre la main dessus et dire qu'il y a une technique, ou aussitôt qu'on veut l'attraper, ça marche plus. Ça, je crois que beaucoup de clowns vous le diront.
C'est par le rire que le clown apparaît? C'est quand les gens rient qu'on se dit, là, il y a du clown?
Je dirais que ça, c'est le fruit, ça. Mais pas forcément. C'est en tout cas une émotion. On voit bien, par exemple, même dans Chaplin, par exemple, on voit qu'il a une espèce de nostalgie, cet homme-là. Et c'était peut-être ça le départ de son travail. Et ensuite, elle est transcendée en rire. Voilà. Elle aurait pu être très bien transcendée en larmes ou en désespoir ou en un poème ou en musique. Mais là, c'est en rire. Et ce qui est super, c'est que ça désamorce, ça le retourne. Et c'est ce qu'on aime beaucoup.
Un des spectacles que vous avez créé en 2001 et qui a beaucoup tourné, qui s'appelle Par le Boudu, où là vous avez un personnage de clown. Est-ce que vous diriez d'abord que c'est un personnage, celui-là, ce clown en particulier?
Un personnage? Ouais, il m'est tellement familier. Et alors je sais pas si c'est un personnage, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est comme quand je travaille avec Catherine ou avec Titoun. Dès qu'on est sur le plateau, je ne vois plus du tout Catherine Germain ou Titoun. Je vois une espèce de bestiaux, de personnages comme ça, qui me touche beaucoup. Je suis comme émerveillé, comme si un sentiment vraiment comme deux gamins qui se retrouvent après avoir passé des grandes vacances, ou je sais pas quoi, il y a une espèce d'euphorie comme ça. Alors, c'est des personnages, parce que c'est des figures, quoi. Pour moi, ils sont magnifiques, tous ces personnages avec qui... Et ça donne une énergie de fou, quoi. C'est étonnant.
Si vous deviez caractériser le clown que vous étiez dans ce spectacle-là, il serait comment? Vous utiliseriez quel mot?
Je dirais, il est... c'est un bourru, quoi. Il a du mal avec la vie, un peu. Je pense qu'il est très solitaire, donc ça lui... Oui, il est très triste, mais il essaye de se dépatouiller avec ça. Et il en cause un peu, il tourne un peu autour du pot, il essaye d'être poète, je pense qu'il est surtout très sensible, alors il préfère être bourru, comme pour c'est comme la réponse à la dureté de la sensibilité. Il a préféré être bourru.
C'était aussi un déplacement d'une forme traditionnelle du clown, vous diriez ça?
Ouais. Justement, je me suis pas posé toutes ces questions de savoir où me placer dans un univers artistique qui existe déjà ou pas. Moi, j'ai toujours aimé le cirque, le clown. Et du coup, on a voulu, par exemple, avec cette troupe, avec le cirque Trottola, là où je travaille avec Titoun, refaire un cirque qui nous ressemblait, par exemple. Pas du tout un cirque qui voudrait se placer dans une espèce de rang ou sur un banc avec d'autres. Non, non, on s'est dit, c'est quoi qui nous fascine, c'est quoi l'élan là-dedans. Alors c'est ce cercle, c'est cette espèce d'électricité qui est là, vive. Il y a le rire, bien sûr, il y a certains dangers, il y a le risque. Et puis on a voulu comme tordre un peu cette image-là, comme manipuler un peu, avec comme on touille un peu une marmite, un peu comme pour qu'aussi émerge une espèce de j'allais dire de tristesse, de nostalgie, qui fait que les deux se rencontrent comme ça, les deux se mélangent un peu. Et je crois que les deux, en effet, sont deux ingrédients qui vont bien, qui s'harmonisent bien. Parce que si on va que dans le rire, on a très vite l'intention que c'est du burlesque, etc., que c'est pour les enfants, ou qu'on ne prend pas tout en compte. Et je pense que vraiment, qu'il y ait le rire, qu'il y ait la galipette, quoi, qu'il y ait la connerie, il faut qu'il y ait du risque, il faut qu'on surprenne les gens, il faut qu'il y ait du danger, puis aussi, il faut qu'il y ait de l'émotif.
Les deux doivent toujours se mélanger. Pour ouais, faire un spectacle,
que,
en tout cas.
Je pense parce que c'est aussi comme dans la vie, c'est-à-dire que ça se mélange, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est mélangé. Donc autant faire des spectacles qui mélangent tout ça.
Vous avez un fort joli lopin de terre, vous savez.
Ah oui?
Je suis conseillère horticole, je suis responsable des jardins et des potagers pour tout village. C'est votre moulin?
Ouais, il n'est pas tout à fait terminé, mais...
Magnifique. Regardez. Ici, vous avez planté des fleurs. Là, jusque là. Partout des fleurs. Quelle est votre couleur préférée?
Le rouge.
Rouge, d'accord, des fleurs rouges. Et là, vous avez planté des légumes. Des tomates. Et puis des oignons. Vous mangez des oignons?
Oui. Rouge.
Parfait. Oh là là, avec une terre de cette qualité, vous aurez un jardin et puis un potager pour toute votre famille.
Je vis seul ici.
Ah bon? Ah, pas de problème. Enfin, après tout, pourquoi un célibataire pourrait pas cultiver des légumes comme tout le monde? Y a pas de honte à en faire pousser, hein, même pour un homme de votre cambrure, de votre carrure.
Hop. J'ai pas vraiment le temps, j'ai un moulin à construire.
Oui, oui, oui. Vous trouverez bien le temps si vous êtes motivée.
Mademoiselle, ça ne m'intéresse pas.
Bonaventure Gacon, on écoute ici un extrait de Cornelius, un film qui est sorti au mois de mai 2018 cette année. Un film de Yann Le Kellec dans lequel vous tenez un des rôles principaux. Quelle expérience ça a été pour vous de jouer au cinéma?
Oh, ça a été une nouvelle expérience. Et puis ça a été formidable parce que c'est de voir la fabrication de tout ça. Et puis voir comment il y a des liens avec mon travail sur la piste ou sur scène. Et de découvrir tout ça, non mais ça a été tout à fait succulent.
Qu'est-ce que ça a déplacé dans votre pratique justement, scénique? Qu'est-ce qui a changé dans le fait de jouer devant la caméra?
Je pense que... L'essence du jeu est la même, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher, enfin, ce que je disais tout à l'heure, il faut aller chercher avant tout une émotion plutôt qu'une technique. Mais par contre, dans la forme, c'est pas du tout pareil. Ça va très vite. Il y a des scènes qui durent une minute ou deux minutes. Il faut les refaire. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses qui se passent, qui sont passionnantes, etc. Donc, alors que, par exemple, sur un spectacle, c'est comme une longue histoire qu'on déroule pendant une heure et demie. Donc, même si on attaque un peu du pied gauche, on sait que ça va nous servir, certainement, que la chose, elle est partie un peu, pas forcément comme on voulait, mais ça va nous servir. Alors que là, ça va très très vite. Il faut aller très très vite.
Et là, vous aviez envisagé différemment la construction de ce personnage-là, de Cornelius, par rapport aux autres personnages que vous pouvez interpréter ou aux autres figures?
J'y allais à tâtons puisque je savais pas trop. Donc moi je me suis dit autant être désarmé, pour reprendre les termes de Catherine, autant être le plus ouvert possible à ce qui va se passer, parce que c'est comme ça que, à mon avis, on tente de qu'il y ait une étincelle, quoi.
Dans ce film-là, vous jouez le rôle d'un meunier qui arrive au village au début du film et qui habite sur une des collines proches du village, où il y a du vent pour le moulin. Et il est en marge du village et en marge de la société. Qu'est-ce que ça dit aussi des arts du cirque, de vous et des arts du cirque en général, cette place de la marge ? C'est un espace qui vous intéresse ?
Oui, bien sûr, parce que j'ai l'impression que ce meunier, malgré sa différence, malgré ses problèmes qu'il a de hurler comme ça, il a quand même tenté de s'ouvrir vers les autres. Et on voit que c'est pas évident, voilà. Mais que c'est ça qu'il faut faire, il faut tenter l'ouverture. Et je pense que le cirque, voilà, avec Campana, là, qu'on tourne dans les villes, etc., où ce public vient voir cette fragilité qu'on propose, avec en même temps cette mise en danger de nos corps et puis de nos vies, on propose une fragilité, on propose un désarmement. Et je pense que il y a aussi cette grosse cloche à la fin qui bat comme un cœur qui bat, c'est impressionnant. Et je pense que c'est ça qui fait que on fait rire, parce que justement on est les couillons qui font les cons là au milieu. Et puis en même temps je pense que c'est émouvant, voilà.
Et ça vous met à la fois dans un endroit qui serait à l'intérieur de la société, puisque donc le cirque aussi s'implante à chaque fois dans les villes, et en même temps un peu en marge. Il y aurait ce double mouvement-là ?
Oui, parce que je pense que, en effet, c'est la place de l'art en général, mais particulièrement des clowns ou du cirque, parce que ce sont des voyageurs, vous savez, c'est pas évident, on ne sait pas trop comment...
Des nomades.
C'est des nomades. Et c'est des artistes, et ils font des choses bizarres parfois, et c'est inquiétant de toute façon le cirque. Et ce qui est beau, c'est que l'inquiétant, il soit pas là pour rassurer, mais il soit là pour que on perce le mystère, qu'on soit ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment délicieux, ce genre de travail.
Quelle place elle occupe la parole dans vos spectacles et à la fois aussi dans ce film ? Quelle relation vous avez avec la parole articulée, le fait de parler sur scène ?
Alors, on a fait des spectacles où on parlait pas. Par exemple, Parle Boudu, là, il est très bavard. Campana, là, qu'on vient de sortir, on parle un peu, il y a des poèmes, ensuite il y a deux clowns qui se cherchent. Bon, et pour moi, je vois pas tant de différence entre un travail corporel et un travail avec la voix. Alors, bien sûr, par exemple, si on doit chanter, moi, il y a une technique à avoir, etc. C'est comme faire un salto, il y a une technique, mais après, être sur la piste devant les gens ou au théâtre, etc., c'est être là entièrement. Donc j'aurais pas envie d'extraire la voix d'être là entièrement, par exemple.
Voilà. Et vous écrivez certains passages de vos spectacles ?
Oui,
c'est fixe,
sûr.
Ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation ?
Parfois j'écris pas mal. Parfois je vois Titoune, elle fait beaucoup de dessins, elle gribouille, etc. Bastien et Thomas, les deux musiciens, ils arrivent avec pas mal d'idées, et puis des impros qu'ils ont trouvés là dans la caravane. Ou voilà, on tâtonne, parce que je pense que pour rester le plus honnête, on s'est dit on va pas écrire, on va pas laisser faire que on va pas être que consciencieux. Voilà, on va être aussi qu'encre. Et je pense que c'est important parce que ça, il faut que ça raconte aussi quelque chose qui gratte aussi. Parce que le cirque, ça doit aussi gratter, grincer, faire peur, surprendre, surtout. Voilà.
Quelle relation vous avez avec le public ? Est-ce que le public influence votre manière de jouer ? Est-ce qu'il y a à vous ressentir, en fonction des publics différents, que là, tel soir, ça ne va pas être la même chose que le soir précédent ?
Ah ben, pour moi, c'est jamais le même soir. C'est vraiment très étonnant. Pour moi, voilà, quand on est en cercle comme ça avec le cirque, comme je disais tout à l'heure, c'est eux qui font le spectacle, c'est eux qui sont d'abord le spectateur, et c'est que eux qui apportent une énergie de dingue. Donc c'est eux le gasoil du spectacle. Alors on est là, on est tributaire de ça, et c'est un énorme plaisir. Et par exemple, je sais pas, je m'en souviens une fois avec le Boudu, je jouais à Arras, je crois que le spectacle a duré une heure et quart, alors qu'il dure une heure d'habitude. Parce que les gens n'arrêtaient pas de rire, je n'arrivais même plus à faire. Et puis, peut-être une semaine après, je suis tombé sur une salle vraiment où les gens n'ont pas ri du tout. Et voilà, et ça, je pense que s'il n'y avait pas ce rapport-là, ça fait belle lurette que j'aurais arrêté ce spectacle, malgré que je l'aime beaucoup. C'est parce que chaque soir, c'est différent. Et tout d'un coup, il y a une atmosphère, un goût. Ils apportent une espèce de sensation que j'aurais du mal à décrire là, parce que c'est eux qui apportent ça. C'est ça qui est formidable.
Et vous le ressentez, ce désir du public, même diffus, de ce besoin de cancre, ce besoin de cirque?
Oui, carrément, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Parce que... aujourd'hui, tout est très réfléchi. Même dans les écoles d'art, il faut que ce soit qu'on ait un projet, que ce soit consciencieux, qu'on soit intelligent. Donc on est loin de quelque chose d'art brut ouvert, où le cœur est ouvert, ou simplement une folie. Souvent on se dit, on va faire quelque chose de folie. Alors, vu qu'on est consciencieux, intelligent, on va vers la provoque, ou quelque chose d'un peu grain. Alors... Et tout de suite, ça bascule d'un côté à l'autre. Mais d'être dans l'équilibre, comme ça, c'est pas évident.
Prochain spectacle qui sera joué à la fin du mois d'août à Aurillac s'appelle Campana et il travaille le thème de la cloche. Campana en espagnol, ça veut dire la cloche. Pourquoi?
Alors, c'est l'instrument de musique qui est le plus gros, le plus lourd et qui fait qu'une seule note. Qui procure une émotion infinie. C'est quelque chose, c'est étonnant parce qu'il est, quand ça sonne, c'est vraiment très très fort. Et qu'elle sonne au milieu des les 300 spectateurs, là, au milieu de nous, ça fait vraiment un effet bœuf, quoi. C'est vraiment surprenant. Et il y a ça. Et puis, il y a aussi de faire voyager une cloche. D'habitude, elles sont cachées en haut des clochers, là. On les entend vaguement, elles nous rappellent un peu. Et là, faire voyager quelque chose qui ne voyage jamais, de nos jours où il y a tous ces migrants, de nos jours où tout est brassé dans tous les sens, il y avait cette beauté de cet instrument, déjà. Et puis ce cirque, le cirque, il a toujours fait ça, c'est-à-dire de brasser des choses lourdes, compliquées, etc., pour essayer de faire quelque chose qui, un petit moment, un petit salto, un petit moment de poésie qui servira à rien. Alors, on a des gros camions, on brasse le chapiteau, etc., juste pour quelque chose de tout petit ou d'éphémère, mais qui a une force pas possible parce que elle rassemble énormément, elle sonne, quoi, comme un cœur battant qui est au milieu des spectateurs.
Comment vous travaillez avec les musiciens en particulier? Comment votre travail s'accorde avec la place de la musique?
Alors, je crois que on essaye, c'est pareil, de pas trop en causer. Voilà. On essaye de se comprendre sans que ce soit consciencieux, comme ce que je disais. Et je crois qu'ils sont, moi je les adore, j'adore ce qu'ils font parce que ils ont réussi on a réussi ensemble à faire quelque chose en commun. C'est pas nous qui avons dit, ben voilà, on aimerait telle musique, un peu la Tom Waits ou je sais pas quoi. On a dit, non. Et ils ont bien vu qu'on avait cette manière un peu tordre la réalité, comme pour avoir un prisme un peu différent, comme pour bouleverser nos vies, la réalité, quoi. Et je crois qu'ils font pareil. Ils le tordent pour que ça mène à l'émotif. Donc c'est, leurs musiques sont drôles, sont un peu comme ça, un peu, brinque-ballante un peu, mais en fait elles sont très fortement chargées d'émotifs et c'est drôle, donc on s'est vraiment bien trouvé, je crois.
Merci, bonne aventure.
Merci,
Gacon.
Merci beaucoup.
Le spectacle Campana du cirque Trottola sera présenté au festival d'Aurillac les 21, 22, 24 et 25 août, puis après on tournait un peu partout en France et vous serez à Paris au 104 en novembre-décembre. Merci à Lila Bozès, Anaïs Isbert, Oriane Delacroix, Anne Toscan-Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Lisco m'était à la réalisation et aujourd'hui au son, c'était Bruno Gagnère-Fontanine. Pour réécouter la Grande Table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Il est 13h49 sur France Culture. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'enquête historique de Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre.